Et bienvenue dans l'église du roi. On l'a chanté ce matin, hein. Notre roi. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un homme. C'est un homme qui, à la fin de sa vie, il est avancé en âge, et puis il est assis devant chez lui, et puis il se repasse les choses du passé. Et dans son cœur repasse souvent cette pensée, cette parole qui se dit « si j'avais su ». C'est l'histoire d'un homme qui fait partie de l'histoire biblique, des gens de la Bible. Mais c'est une histoire aussi qui nous parle beaucoup, parce que ça pourrait être nous, qui à la fin de notre vie pourront se dire, une fois que tout est passé, « si j'avais su », pour certaines choses, « si j'avais su ». Pour justement ne pas en arriver là, Dieu justement a écrit la Bible pour nous conter ces histoires d'hommes et de femmes différents, avec des histoires différentes, pour nous montrer la bonne voie à suivre. Pour qu'à la fin de notre vie, on se dise, ben voilà, j'ai réussi, je suis content grâce au Seigneur. Voilà, c'est un homme dont il a eu deux filles, cet homme. Les filles sont parties loin de lui. Elles se sont mariées avec des gens que lui n'appréciait pas. Il n'a peut-être jamais revu ses enfants, petits-enfants. Voilà, c'est une histoire un peu dramatique. Malgré tout, cet homme qui a subi la vie plus que de dominer, il a plus subi la vie, il a appelé quand même un juste. Il a appelé un juste. Alors peut-être ça vous dit quelque chose. C'est l'histoire de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Bon, vous connaissez plus Abraham, je pense. Et puis Abraham, il a reçu un appel de Dieu. Et puis Dieu lui a dit « pars, pars de ton pays ». C'était un pays où il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de choses très intéressantes. Une société un peu évoluée. « Pars de ce pays et puis je vais te montrer où tu vas aller ». Et Dieu l'a emmené, après quelques péripéties, Dieu l'a emmené dans un pays de montagne, sur une montagne. Et il a emmené avec lui, bien sûr, il a emmené sa femme, ses serviteurs. À l'époque, Abraham était très riche, il avait beaucoup de serviteurs et servantes. Il avait beaucoup de troupeaux, quelqu'un qui avait réussi, on peut dire. Et puis, il a emmené son neveu Lot, le fils de son frère qui était mort. Donc, il a emmené son neveu avec lui. Pourquoi l'a-t-il emmené? Est-ce que Lot a voulu suivre? Est-ce que Abraham a voulu l'emmener? L'histoire ne nous le dit pas. En tous les cas, ils sont arrivés tous les deux dans cette montagne, c'est au pays d'Israël. On appelait ça à l'époque le pays de Canaan. Et ils sont arrivés par les montagnes. Ils sont arrivés par le nord d'Israël. Abraham, ils ont fait la marche jusqu'au sud. Ils sont remontés. Et puis, ils ont mis leur camp dans les montagnes d'Israël. Alors, il est arrivé un moment où ils étaient tellement riches, tellement leur tribu, on peut appeler ça comme ça, leur clan, étaient tellement nombreux qu'ils avaient des bergers, bien sûr, ils avaient des serviteurs. Et les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot se sont disputés. Se sont disputés à cause de pâturage, à cause de... Voilà. Tes brebis viennent sur mes pâturages, non, alors voilà, ça, les disputes ont commencé comme ça. Abraham était un homme pacifique, Lot on pense aussi, d'après son histoire, mais l'histoire a débuté, et en fait on voit que Dieu est peut-être là derrière, pour séparer Abraham de Lot. Alors on commence à lire cette histoire, dans Genèse 13. Alors Abraham avait été faire un séjour en Égypte. Il avait manqué un peu de foi, comme ça nous arrive souvent. Il a fait des choses que Dieu ne lui a pas dit de faire. Mais voilà, il est revenu quand même au point de départ. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors là, il y a un choix. Lot est obligé de faire un choix. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le mauvais choix. Pourquoi a-t-il fait ce mauvais choix? Il a regardé avec ses yeux, bien sûr, naturels, et il a vu devant lui, plutôt que d'une montagne toute sèche, où il fallait se battre pour avoir un peu d'herbe pour les brebis, il a vu une plaine entièrement arrosée par le Jourdain, par le fleuve du coin, et puis qui était resplendissante, rayonnante, jusqu'à dire même que c'était comme un jardin de l'Éternel. Alors il n'a pas dû trop hésiter, il s'est dit entre un endroit sec et rocailleux et un jardin de délices, je vais m'installer là-bas. Et Abraham, bien sûr, l'a laissé faire. Alors ils auraient pu, bien sûr, se séparer, Abraham aurait pu prendre le sud, et puis d'Israël, et puis l'autre le nord. Mais voilà, en regardant, en voyant, il n'a pas vu plus loin que ce qu'il voyait de ses yeux, et il a choisi. Alors, la Bible nous dit que dans ce pays-là habitaient des gens méchants, qui ne connaissaient pas du tout Dieu, qui étaient méchants. Mais ça n'a pas empêché vraiment Lot de s'y installer. Alors les gens étaient tellement méchants dans cette vallée que sans arrêt ils se faisaient la guerre. Alors bien sûr, à cette époque-là, ce n'était pas des grosses villes, ce n'était pas des grosses tribus, c'était des clans, un roi avec une famille élargie, avec quelques sujets, voilà. Et ils passaient leur temps à se taper les uns sur les autres pour reprendre du territoire à l'autre. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a toujours pas changé. Voilà, en ce moment, c'est entre des voisins qui veulent récupérer un petit mètre de terrain, voilà, pour leur jardin, ça n'a pas changé. Des histoires de terrain. Alors, pendant cette guerre qui a lieu, finalement, ces petites guerres qui a lieu, il se trouve qu'à un moment donné, Lot est raflé par des gens qui sont venus à Sodome et puis qui ont tout pris dans le pays. Donc, en même temps, hein, Lot, heureusement, n'est pas tué, mais il rafle vraiment tout ce qu'il a, toutes ses possessions, lui, ses serviteurs, ses servantes. Tout le monde s'en va. Et à ce moment-là, on vient prévenir Abraham en disant, Lot, il a été ravi. Et puis il est prisonnier maintenant, et Abraham n'hésite pas un seul instant. On voit cette Abraham, tout le long de sa vie, a eu ce souci de Lot, de son neveu. Là, il n'avait pas d'enfant encore. Il avait ce souci, et même après qu'il ait eu des enfants, Abraham il a eu ce souci de Lot. Et très rapidement, Abraham va armer des gens de sa tribu, et puis ils vont aller faire la guerre dans la vallée à ceux qui avaient ravi son neveu. Alors, on trouve ça dans Genèse 14, à partir du verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Donc il arma 318 de ses plus braves, donc il y en a encore des autres. Il avait au moins déjà 318 serviteurs. Qui a 318 serviteurs? Personne, hein. Il n'est pas riche comme Abraham. Né dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec les biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà. Abraham, bien sûr, est victorieux, hein, avec un petit nombre de guerriers. Il est malgré tout victorieux contre ses armées qui s'étaient liguées entre elles pour combattre. Il est arrivé un moment où vraiment dans cette vallée de Sodome, il y a aussi une ville qui s'appelle Gomorre et une autre qui s'appelle Tsoar, des petites villes où vraiment l'immoralité était à son comble. Il n'y avait plus du tout la Bible nous dit un peu plus loin que dans ces villes-là, non seulement l'immoralité était à son comble, mais il n'y avait plus de social, il n'y avait plus rien. On ne s'occupait plus du tout des pauvres ni des gens qui n'avaient pas réussi. C'était vraiment le chaos général. Alors Dieu décide à un moment donné de détruire ces villes de Sodome et Gomorre. Il décide de les détruire complètement, de les raser. Et naturellement, Abraham, il va le dire à Abraham, Abraham était tellement proche de lui, et c'était son ami, il a été appelé son ami, il va le dire à Abraham, et Abraham, naturellement, sait, se souvient que Lot habite, alors il va intercéder, il va prier pour que Dieu ne détruise pas tout. Donc, alors, il y a une prière que peut-être beaucoup connaissent, qui est assez mémorable, il va oser prier Dieu. À cette époque-là, on ne s'approchait pas de Dieu comme on s'approche aujourd'hui. Ça nous a été dit ce matin dans une prière, c'est grâce au sang de Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu, mais avant, il n'était pas question de s'y approcher. Pourtant, Dieu va permettre à Abraham de prier pour Lot, pour ses villes. Alors, on trouve ça dans Genèse 18, un peu plus loin. À partir du verset 20. Donc, Abraham a déjà fait une rencontre. Des anges de Dieu sont venus vers Abraham pour lui dire qu'un jour, il aura un fils. Bon, ce n'est pas l'histoire aujourd'hui. Mais voilà, donc les anges sont en présence d'Abraham. L'Éternel dit, Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas vrai, je le saurai. Donc Dieu envoie des anges sur la terre pour voir ce qu'il a entendu. Des bruits, il veut se renseigner par lui-même pour être sûr que ce qu'on dit, vous savez, des fois les médisances, les choses comme ça, il vaut mieux avoir la source. Donc Dieu envoie des anges pour vérifier si cela est vrai. Les hommes s'éloignèrent, donc ils ont discuté un moment avec Abraham. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Donc voilà, on voit Abraham qui plaide et qui dit à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Donc c'est quand même osé. Et Abraham va insister. Et il va dire, mais s'il y a simplement... Alors il va être à 40, 30, 20. Et à la fin, il va dire, mais si vraiment il n'y a que 10 justes dans cette ville, est-ce que tu vas épargner la ville ? Alors, c'est à ce moment-là qu'Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Dieu s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc il est arrivé à 10. Sachant que Lot, il a dû se dire, au moins, ils sont peut-être 10. Alors, cette vallée, ces villes de la vallée vont être détruites complètement. Beaucoup ont entendu parler, même ceux qui ne lisent pas souvent la Bible, de ces villes de Sodome et Gomorre que Dieu a détruites, dont on n'a jamais retrouvé, encore aujourd'hui, aucune trace. Les deux anges arrivèrent à Sodome, sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Elle se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes serviteurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivez votre route. » Donc ça, c'était l'usage, la coutume dans ces pays d'Orient, les gens qui arrivaient le soir, on les logeait. « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Voyons que dans la panique, Lot, qui connaît très mal Dieu, dans la panique, il va aller jusqu'à, pour sauver sa ville, sauver, bien sûr, les visiteurs étaient précieux, quand on était visiteur chez quelqu'un dans ces pays-là, on était quelqu'un de précieux, mais il ira jusqu'à être prêt à livrer ses filles à des hommes, pour avoir, bien sûr, aussi la vie sauve. Alors, dans la panique, quelquefois, on peut faire des choses vraiment qui sont hors de sens. Retire-toi. Alors, j'en suis... Oui, ils dirent. Alors, les hommes qui sont venus, ils dirent « Retire-toi ». Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » En pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement des gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Dieu nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, partez, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. N'est pas pris au sérieux. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors voyons que Lot n'est pas du tout pressé de quitter ces lieux. Est-ce qu'il croit que Dieu va détruire la ville? Peut-être qu'à moitié. Mais il est tellement attaché à cette ville, tellement attaché à son confort personnel, à cette vie hein, qu'il a choisie, il est tellement attaché qu'il a du mal à tout quitter. Bien sûr, hein, quand les anges lui disent ben, « tu prends vraiment le strict minimum et puis on t'emmène parce qu'il faut être rapide, et la ville va être détruite ». Et lui, il hésite, si bien que les anges vont être obligés de le saisir de force et de l'emmener hors de la ville. Alors je continue. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Ils disent bien « Remonte sur la montagne. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. » Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que j'y puisse m'y réfugier, et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Donc vous voyez que... Lot n'est pas du tout prêt à sortir, à monter sur une montagne. Il veut encore aller dans une ville, pas du tout prêt de repartir à zéro, même si c'est pour conserver sa vie. Alors, il reconnaît vraiment la grâce hein, de ses anges, il reconnaît la grâce de ses envoyés de Dieu, il connaît qu'il y a une grâce, qu'ils lui font grâce, mais pour lui, ça lui suffit. Il n'a pas du tout envie d'aller plus loin. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Alors quand les touristes vont dans ces endroits-là, il y a une montagne de sel là-bas, et on montre aux gens, aux touristes, en disant « c'est la femme de Lot ». J'ai lu ça, hein. Voilà, je ne suis jamais allé là-bas. Mais... Voilà. Donc on voit que Dieu ne plaisante pas. Dieu, quand il a décidé quelque chose, ça arrive, même si Lot n'y croyait qu'à moitié, les gendres pas du tout, ceux de sa maison pas du tout. Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a décidé. Et heureusement qu'Abraham a prié pour Lot, c'est pour ça qu'il a eu cette grâce. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de Dieu. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il se souvint de la prière d'Abraham. Donc nos prières, finalement, on a l'impression quelquefois qu'elles ne servent à rien. Mais Dieu s'en souvient. Dieu se rappelle, Dieu a vraiment de quoi enregistrer et se repasser nos prières, et il se souvient quand on l'a prié. Donc on ne prie jamais en vain quand on prie pour quelqu'un, bien sûr, pour nous-mêmes, pour quelqu'un. Nos prières ne sont jamais vaines. Et c'est souvent de la prière d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc Lot a été sauvé grâce à Abraham, grâce à quelqu'un qui a intercédé pour lui. Comme quoi nos prières d'intercession, pour l'un ou pour l'autre, il ne faut pas cesser de prier, de remettre vraiment devant Dieu toutes nos familles, nos amis, tous ceux que l'on connaît. On a aussi grand nombre qui nous en passent par la tête, de les remettre, et ça peut les aider à venir à Dieu. Ça n'est jamais inutile, même si ça se passe beaucoup plus tard, ça n'est jamais inutile. Alors Lot était riche, comme on l'avait vu, riche, et il va se trouver sans rien. Il va arriver sur cette montagne avec ses deux filles. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. On le comprend, oui. Il habita dans une caverne, donc plus rien, plus qu'une caverne pour s'abriter, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Oui, c'est la Bible, c'est bien la Bible, c'est marqué dans la Bible. Ce sont des choses bizarres. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. Le plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Donc, ce père qui était prêt à donner ses filles en pâture à des hommes, voilà le résultat de l'éducation de Lot sur ses filles. Voilà ce qu'il leur a appris. Alors on peut dire, oui, c'est peut-être venu des filles, mais on s'aperçoit que Lot, finalement, n'a jamais invoqué Dieu dans sa vie, malgré qu'il le connaissait, qu'Abraham lui en avait parlé, n'a pas du tout élevé ses filles, ni encore moins ses gendres, ni même sa femme qui l'a pris dans ce pays de Sodome. Il n'a pas parlé de Dieu, il est resté silencieux. Il avait Dieu dans son cœur, mais de loin. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà ce désastre qui est arrivé. Donc ces deux filles vont donner naissance à deux peuples qui seront ennemis d'Israël tout au long de l'histoire. Alors, cette histoire peut paraître étrange. On peut dire que Lot a fait vraiment ce mauvais choix. Le fait qu'il ait choisi Sodome et Gomorre, je voulais dire par là que notre entourage nous modèle. Là où on se trouve, qui on fréquente, là où on est, ça nous modèle. Ça nous modèle, ça nous fait quelquefois perdre un peu de vue la vie de Dieu, ça nous fait perdre un peu de vie les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, là où on est. Alors il faut bien faire attention, et je me disais, il faut quand même souvent remonter sur la montagne. Souvent aller sur la montagne pour prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors la montagne, c'est souvent évoqué, c'est vrai, dans la Bible. Mais c'est bien d'être avec Dieu sur la montagne et puis faire le bilan régulièrement. Où en est ma vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu? Pour pas qu'à la fin de la vie, sur cette montagne, je puisse dire si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Parce que tout au long de notre vie, il faut profiter des moments où on entend parler de Dieu, profiter des moments où on entend parler du Seigneur, de Jésus, qu'on entend parler de ce que Jésus a fait sur la croix, se renseigner, être curieux de ça tout au long de notre vie. Et toujours vraiment baigner dans cette atmosphère spirituelle que Dieu veut qu'on ait. Alors ces moments que nous passons ce matin au culte avec la louange, c'est des moments privilégiés où là, vraiment, ça nous rappelle ce que Jésus a fait par la scène, ça nous rappelle qu'il faut louer Dieu, ça nous rappelle que Dieu existe, ça nous rappelle toutes ces choses-là. Et vous savez, c'est vite fait de quitter Dieu. C'est vite fait de quitter la pensée de Dieu. Je ne veux pas dire de quitter Dieu, mais la pensée de Dieu. C'est vite fait de ne plus prier. C'est vite fait vraiment de sortir de là et nous replonger dans ce que le monde fait. Alors nous devons rester en contact comme Abraham a fait. Abraham n'a jamais manqué de rien, il est resté dans un lieu désert, sur une montagne, mais Dieu n'a jamais quitté Abraham, et en plus il lui a donné ce qu'il voulait avant toute chose. Abraham voulait un fils de Sarah, sa femme, il voulait vraiment un fils. Il aura d'autres fils, mais il le voulait au moins un de Sarah, et dans sa vieillesse, il a eu un fils de Sarah. Donc Dieu lui a donné des choses impossibles à avoir, naturellement, parce qu'Abraham est toujours resté en contact avec Dieu. Et on voit cette intercession qu'il a menée pour Lot. Il a réussi à sauver Lot, mais la descendance de Lot, on ne sait pas, elle s'est perdue, disons, dans les peuples. Ce n'est pas ce qu'il est venu, mais ça, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, cette histoire de Lot, c'est triste à la fois. Et pourtant, Lot, Jésus en parle, et Pierre en parle. Alors, je vais vous donner les passages où Pierre en parle. Comme quoi, Pierre connaissait bien cette histoire de la Bible, l'Ancien Testament, connaissait parfaitement. Alors, c'est dans 2 Pierre, versets 4 à 9. Pierre rappelle aux chrétiens de son temps, de ses contemporains, et à nous aussi, bien sûr, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, vous savez, il y a des anges qui se sont rebellés avec Satan, qui se sont rebellés contre Dieu, mais s'il, ce qu'on appelle les démons, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, il y aura un jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, donc il avait déjà détruit une partie de la terre, Dieu, dans l'histoire de Noé, on verra ça un autre jour, s'il a commandé la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors on voit, alors ça c'est cette histoire, c'est Pierre qui nous le dit, hein, que Lot est appelé juste à cause d'Abraham, il est appelé juste, et aussi que son âme, là où il habitait, son âme était sans arrêt tourmentée par ce qu'il entendait, par ce qu'il voyait. Donc il vivait dans un tourment perpétuel, parce qu'il avait quand même entendu parler de Dieu, il avait quand même entendu par Abraham, il connaissait bien sûr les principes de Dieu, et en voyant ce qu'il voyait, eh bien, son âme était tourmentée, donc il cogitait sans arrêt, il était mal à l'aise. Donc il a passé sa vie comme ça, et sans faire le pas, il aurait pu dire, mais je retourne vers Abraham, je remonte sur la montagne, je peux voir ça, c'est horrible. Non, malgré tout, l'attrait de ce monde vraiment qu'il a choisi était trop fort en lui. Il n'a pas pu quitter ce monde pour retourner vers Abraham. Il aurait pu le faire. Et il a choisi d'avoir une âme tourmentée. Alors, vous savez ce qu'une âme tourmentée, hein, c'est qu'on n'a pas de, on n'a pas de paix. Hein, le contraire de l'âme tourmentée, c'est la paix. Et il n'avait jamais de paix à cause de ça. Donc voilà. Et je vais lire aussi le passage où Jésus parle de Lot. C'est dans Luc. Alors Luc 17, verset 26. Alors Jésus parle aussi, comme Pierre, comme d'autres, hein, parle des temps de la fin, parle de ce qui s'est passé avant, de qui Dieu est, parle, dit bien que Dieu tient ses promesses. Donc là, il va rappeler à ceux qui sont autour de lui ce qui est arrivé du temps de Noé et de Lot. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, du temps de Noé, il y a eu un déluge. Et Dieu a dit qu'il ne noierait plus la terre sous un déluge. Donc on peut le croire, hein, Dieu est fidèle, donc il n'y arrivera plus un déluge comme ça. Mais ce qui arrivera, c'est qu'à la fin, il y aura de moins en moins de gens qui croiront en Dieu, et Dieu va faire en sorte de détruire la terre, d'une autre manière. Alors à cette époque-là de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, il n'y a rien de mal hein, à ça, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé a prêché pendant 120 ans, il a prêché, c'était un prédicateur, Noé, pendant 120 ans, autour de lui, aux gens qui commençaient à rigoler parce qu'il faisait une arche, alors qu'il était très loin de la mer, qu'il faisait un bateau, en fait. Et il a dit pourquoi. Et il a prêché pendant 120 ans. Et personne n'a voulu monter avec lui. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Il n'y a rien de mal à ça. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc Jésus doit revenir. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Il y arrivera un temps, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire, il y arrivera un temps où vraiment, quand l'appel viendra, ce ne sera même pas la peine de rentrer chez soi, ce ne sera même pas la peine d'emmener quelque chose, son carnet de chèques, ou son argent, ou son or, ou son matériel, ce ne sera même pas la peine. Une fois qu'on aura su cet appel et qu'on l'aura dans le cœur, il faudra fuir, partir, être d'accord avec ce qui arrive. Il dit bien, souvenez-vous de la femme de Lot, elle a regretté, elle a regardé en arrière ce qu'elle perdait, elle a été transformée en statue. Donc voilà, c'est Jésus, hein, Jésus, Pierre, qui nous prévienne que des choses vont se passer et que vraiment il est... Alors bien sûr, hein, on se marie, comme il dit, hein, on boit, on se marie, on mange, on travaille, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'on fait à côté? Est-ce qu'à côté de tout ça, est-ce qu'on s'occupe vraiment des choses de Dieu, des principes de Dieu? Est-ce que notre vie spirituelle est supérieure à notre vie naturelle ou pas? C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin, que Jésus nous dit ce matin, que Pierre nous dit ce matin, que la Bible nous dit ce matin. Qu'est-ce qui est prééminent vraiment dans ma vie? Est-ce que c'est ma vie future? Est-ce que c'est les gens autour de moi qui ne veulent pas de Dieu, mais que je veux malgré tout sauver, que je veux malgré tout intercéder pour eux? Est-ce que c'est ça qui est prééminent dans ma vie? Est-ce que ça me fait du mal de savoir qu'il y a plein de gens là qui ne seront pas sauvés? Ou est-ce que finalement je profite de la vie en mettant Dieu dans un petit coin de mon cœur? Oui, je crois en Dieu, mais c'est tout, quoi. Ou est-ce que vraiment, on dit souvent, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Mais la pratique, elle est simple, hein, c'est de suivre bien sûr les principes de Dieu. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment intercéder. C'est une leçon vraiment d'intercession, de prière pour les autres, que Dieu nous dit ce matin, à intercéder pour ceux qui sont autour de nous. Même si nous ne voyons pas le résultat, nous aurons fait ce que Dieu demande. Et le fait d'intercéder pour un maximum de monde, ça nous prend du temps. C'est tout ce temps-là, au moins, qu'on peut passer avec Dieu, en nous souvenant de toutes ces choses. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Dieu nous dit que Jésus reviendra. À ce moment-là, il se passera des tas de choses. Je ne suis pas un spécialiste du retour de Jésus, mais il se passera des tas de choses. Mais la grande question qui nous sera posée, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce qu'au moindre signal, au moindre signe, je ne sais pas comment exactement ça se passera, mais est-ce que tu diras oui, moi je m'en vais. Je m'en vais de là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui ne nous prévient pas, qui nous prend en traite. Seigneur, tu nous préviens par ta parole. Tu nous dis comment les choses étaient avant, comment les choses seront après. Même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, nous voulons vraiment rester avec toi, faire ce choix, Seigneur, de nous tenir toujours un peu à l'écart de cette société qui ne te reconnaît souvent plus. Nous voulons nous tenir un peu à l'écart sur la montagne, Seigneur, pour voir les choses d'en haut, pour voir pour connaître tes principes encore mieux, Seigneur. Nous ne voulons pas, à la fin de notre vie, être comme Lot, assis sur une chaise et regretter les choses. Bien au contraire, nous voulons vraiment nous réjouir, Seigneur, à la fin de notre vie, de ce qui s'est passé dans notre vie, de ceux pour qui nous sommes intervenus. Et vraiment, Seigneur, je te prie de toujours nous aider à nous mettre à l'écart, Seigneur, de nous rappeler ta présence, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est tellement facile, Seigneur, de céder aux lumières du monde, Seigneur. C'est tellement facile de céder à des choses, Seigneur, qui nous vivons aujourd'hui dans un monde facile où il y a plein de choses qui nous sont données, où tout est facile, Seigneur. Nous ne vivons pas, nous ne sommes pas persécutés, nous ne sommes pas... Mais nous ne voulons pas attendre ce temps-là, Seigneur. Nous voulons vraiment prier pour nous-mêmes, nos familles, Seigneur, et pour les autres, afin que tu en sauves un maximum. Tu es un Dieu bon, juste, avec qui nous pouvons te demander jusqu'à la limite de sauver ceux qui sont autour de nous. Tu nous écoutes, Seigneur, tu nous entends, nos prières ne sont pas vaines. Je te remercie pour ça, Seigneur, parce que nous sommes petits et toi, tu es grand. Et malgré tout, tu nous écoutes, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Amen.